à Melbourne. Des manifestants appellent à la fermeture immédiate des camps de détention des migrants à Manus Island et Nauru. Et la décision de Donald Trump de rencontrer son homologue nord-coréen suscite une vague d'étonnement et des critiques. Et puis en France, réforme judiciaire annoncée avec création des tribunaux correctionnels. Une manifestation s'est tenue à Melbourne aujourd'hui dans l'électorat de Batman, appelant à la fermeture immédiate des camps de détention des migrants à Nauru et Manus Island. Cette manifestation qui a commencé à Northcote a eu lieu une semaine avant une élection anticipée dans la circonscription de Batman. Le collectif de défense des droits des réfugiés, Refugee Action Collective, accuse en effet le gouvernement libéral de créer une crise humanitaire. Et le collectif enjoint l'électorat de marquer sa désapprobation au moment du vote la semaine prochaine. La coordinatrice de l'organisation des grands-mères opposées à l'incarcération des réfugiés, surtout des enfants, Linda King, dit espérer que les électeurs des Batman iront aux urnes en ayant à l'esprit le sort réservé aux réfugiés.
Women in labour on Nauru, the refugee women have no pain relief in labour. About a month ago, a 14-day-old baby became critically ill with spreading septic illness, and it's just untenable. This is not Australia. This is not what we want to know as our country's way of being towards vulnerable people.
Un détenu de Manus Island, du nom d'Abdulaziz Adam, va adresser la foule, mais il ne sera pas présent sur les lieux de la manifestation, donc il s'exprimera à distance. Et en marge de cette manifestation, il a déclaré à la SBS que son message est un appel au secours.
What is happening on Manus, this is a humanitarian crisis that has been created by two major parties in Australia, Liberal and Labour. And we want this party to be responsible of what they have created, and they have to clean this mess. And the only way to clean this mess is either to speed up the process with America or to accept the deal of New Zealand, which has been on the table for so far more than 4 months or 5 months.
Et Donald Trump a accepté une rencontre avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un. On se souvient que les deux hommes avaient échangé des propos peu flatteurs et l'ancien premier ministre australien Kevin Rudd exprime son scepticisme concernant cette rencontre. S'exprimant en tant que président de la Asian Society Policy Institute, Kevin Rudd a déclaré à la ABC que si elle est bien préparée, eh bien cette rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un pourrait tout de même avoir des retombées positives.
A lot of work has to be done in the next 1 to 2 months if the summit's to proceed about precise definitions of denuclearization. What's it mean for missiles? What does it mean for nuclear bombs? What does it mean for the future testing program for both?
Et Philippe Gelug, professeur des relations internationales à l'Université américaine de Paris, revient lui aussi sur cette rencontre inédite et inattendue. Pour lui, cette rencontre comporte des enjeux non négligeables pour la diplomatie américaine et surtout pour la présidence du président Donald Trump. On l'écoute.
Il faut bien qu'ils sortent de ce sommet avec quelque chose. S'il n'y a pas de résultat et que la situation revient au statu quo, Trump sera inévitablement mis dans une position de, non seulement de ridicule, mais aussi de vulnérabilité stratégique, puisqu'il aura démontré une très grande incapacité personnelle à gérer les relations internationales dans des domaines sensibles. Donc le risque est très grand côté américain. Le risque est beaucoup moins grand côté nord-coréen, puisque les Coréens du Nord gagnent du point de vue de la reconnaissance, gagnent du point de vue de leur présence régionale, leur négociation avec la Corée du Sud en particulier. Et enfin, ça crée une inquiétude inévitable côté japonais sur les intentions futures des États-Unis du point de vue de la sécurité dans la région. Est-ce que les États-Unis négocieront la présence des troupes américaines dans la région en retour d'une dénucléarisation partielle ou totale de la Corée du Nord? Nous n'en savons rien pour l'instant. Tout cela n'a pas été préparé, ni du point de vue de l'opinion publique, ni du point de vue de la diplomatie.
En tout cas, aux États-Unis, les commentateurs sont très sceptiques quant au succès de cette rencontre. La plupart des médias américains sont critiques, à l'instar du quotidien The New York Times, qui prédit en tout cas un face-à-face des deux dirigeants qui croient chacun profondément être la seule personne qui compte. Mais la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, souligner quant à elle que cette rencontre est conditionnelle. On ne sait donc pas si elle aura lieu ou non. On l'écoute.
Let's not forget that the North Koreans did promise something. They've promised to denuclearize, they've promised to stop nuclear and missile testing, and they've recognized that we're going to continue in our military exercises. Let's be very clear, the United States has made zero concessions, but North Korea has made some promises. And again, this meeting won't take place without concrete actions that match the promises that have been made by North Korea.
Et au Kenya, le président Uhuru Kenyatta et l'opposant Raila Odinga ont échangé une poignée de main et annoncé la fin de leur division. Cette réconciliation surprise survient alors que le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, est dans le pays. Et lors d'une conférence de presse, il a tout de suite mentionné le rapprochement entre les deux hommes. Explication de ce rapprochement inattendu avec Sébastien Lemaitre pour RFI.
Poignée de main chaleureuse, accolade, grand sourire, Raila Odinga et Uhuru Kenyatta ont voulu montrer à tous la preuve de leur réconciliation. L'opposant a déclaré que le temps était venu de confronter leurs différences, des divergences trop enracinées au sein de la population selon lui, et qui déjà gangrènent la dernière génération de Kenyans. Nos dissensions s'arrêtent ici, nous avons besoin de sauver nos enfants de nous-mêmes, a déclaré le chef de la NASA. Même ton du côté de Uhuru Kenyatta qui n'a pas hésité à pointer les divisions ethniques comme en partie responsable, alors que son adversaire ne l'a toujours pas reconnu comme président légitime, le chef de l'État, qui entame son dernier mandat, a rappelé que les élections vont et viennent, mais que l'intérêt général doit primer. Uhuru Kenyatta a enfin annoncé un plan pour unifier le peuple et discuter des divisions du pays, sans pour autant donner de détails. Le mot président n'a pas été prononcé, les deux hommes se sont appelés mon frère. Odinga et Kenyatta scellent un rapprochement surprise juste avant l'arrivée du secrétaire d'État américain Rex Tillerson dans le pays, les États-Unis étant depuis des semaines en première ligne pour un dialogue entre les deux hommes.
Et Rex Tillerson, on le souligne, est arrivé au Kenya en provenance de Djibouti, Djibouti, une ancienne colonie française qui jouit d'une importance stratégique énorme. Français, japonais et américains, entre autres, y disposent de bases militaires aux enjeux stratégiques considérables. Et plus récemment, la Chine y a ouvert sa première et unique base militaire en dehors de son territoire. Et comme nous l'explique Pierre-Yves Vircoulon, chercheur à l'Institut français des relations internationales, les Américains craignent une mainmise de la Chine sur Djibouti.
Les États-Unis ont installé à Djibouti leur plus grande base militaire en Afrique dès 2002, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Depuis cette époque, on a vu que la base américaine du camp Le Monnier n'a cessé de grandir. Actuellement, elle abrite probablement la plus grande base de drones américaines sur l'Afrique. C'est fondamental dans le cadre de la guerre contre le terrorisme pour le théâtre Yémen et Somalien. On a vu l'année dernière une augmentation considérable des frappes de drones américaines en Somalie, une trentaine. L'autre raison, évidemment, c'est le contrôle de l'accès à la mer Rouge, du fait que ça soit évidemment une voie vitale pour les tankers. Et puis, l'autre aspect qui rend Djibouti extrêmement géostratégique, c'est la porte commerciale sur l'Éthiopie et sur les pays qui environnent l'Éthiopie. Le port de Djibouti est depuis longtemps un des points d'entrée pour l'approvisionnement donc de l'Éthiopie et des pays environnants. Djibouti est maintenant intégré dans le projet des routes de la soie de la Chine. Et donc, comme d'autres ports en Afrique, elle fait partie des points d'entrée importants pour la Chine et les autres pays qui veulent faire du commerce avec l'Afrique.
C'était le chercheur Pierre-Yves Vercoulon, donc de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Il était au micro de RFI. Bien, 6 mois après les dernières élections en Allemagne, l'Allemagne va enfin avoir un nouveau gouvernement. Après d'intenses négociations, Angela Merkel sera reconduite dans une grande coalition. Mais le principal gagnant de la nouvelle formule est le SPD, un petit parti qui, malgré un score relativement faible aux dernières élections, remporte quand même 6 portefeuilles ministériels et non des moindres. Comme nous l'explique Pascal Thibault depuis Berlin, le nouveau gouvernement allemand se caractérise aussi par un rajeunissement et une plus forte participation des femmes qu'auparavant.
3 femmes, 3 hommes, la parité est respectée, le rajeunissement est aussi sensible avec 2 ministres de plus de 50 ans. Le SPD, malgré son score historiquement faible en septembre dernier, tire son épingle de jeu avec des portefeuilles importants. Son trophée de poids est le ministère des Finances, occupé pendant 8 ans par le chrétien-démocrate Wolfgang Schäuble. Son nouveau titulaire, Olaf Scholz, qui devient aussi vice-chancelier, ne remettra pas en cause la politique de rigueur budgétaire de son prédécesseur, mais sera peut-être plus souple sur les dossiers européens. Nouveau poids lourd, Heiko Maas aux affaires étrangères, celui qu'un magazine a couronné il y a 2 ans comme l'homme politique le plus élégant d'Allemagne, n'a pas d'expérience diplomatique Il s'est fait un nom comme ministre de la Justice par son engagement résolu contre l'extrême droite et le racisme et sa loi restrictive contre les propos haineux sur les réseaux sociaux. Heiko Maas remplace Sigmar Gabriel, un poids lourd du parti, puisqu'il l'a dirigé pendant 8 ans, et qui s'était imposé comme ministre des Affaires étrangères. Mais Gabriel a été victime des bisbilles personnelles entre responsables du SPD et tire sa révérence.
Et de l'Allemagne, on passe à la France, où la mesure la plus spectaculaire de la réforme de la justice en France a été annoncée. Et bien, cette mesure se caractérise par la mise en place, dans un premier temps au stade expérimental, de tribunaux criminels pour la première fois en France. L'annonce a sonné comme un coup de tonnerre dans le monde judiciaire, comme on s'y attendait. Et la nouvelle est tombée à quelques heures du déplacement du Premier ministre Édouard Philippe dans l'est de la France. Déplacement placé justement autour des grands axes de la future réforme de la justice dans l'Hexagone. Gros plan sur cette réforme avec France Alexandre de RFI.
Un tribunal criminel départemental composé seulement de juges va donc voir le jour, d'abord à titre expérimental. L'objectif poursuivi par la chancellerie est d'accélérer considérablement le jugement des affaires criminelles, notamment les viols, les coups mortels et les vols à main armée, des crimes passibles de 15 ou 20 ans d'emprisonnement maximum et qui en première instance seulement ne seraient donc plus du ressort des cours d'assises. La traditionnelle cour d'assises composée de 3 juges professionnels et d'un jury de 6 citoyens tirés au sort serait, elle, réservée aux affaires les plus graves. La cour d'assises rend une justice de très grande qualité, reconnaît Nicole Belloubet, mais c'est une justice qui prend du temps et la garde des Sceaux de souligner qu'aujourd'hui des affaires sont souvent requalifiées en délit, passent devant un tribunal correctionnel plutôt que devant les assises parce que les parties préfèrent avoir un jugement plus rapide. La création d'un tribunal criminel sans juré populaire ne va donc pas bouleverser l'ordre des choses. Ce tribunal vise surtout à institutionnaliser une pratique déjà courante.
Et c'était Franck Alexandre qui nous parlait de... Puis donc à Paris, au micro de RFI. Et à présent, un coup d'œil météo à travers les principales villes australiennes. Perth, 31 degrés. Adélaïde, 35. Melbourne, 33. Hobart, 27. Canberra, 28. Wollongong, 23. Sydney, 27. Newcastle, 24. Brisbane, 27. Cairns, 30 degrés. Darwin, 34 degrés. Et sur les marchés financiers, un dollar australien vous achète aujourd'hui 79 centimes de dollar US et 64 centimes d'euros. Et un rappel des principaux titres de l'actualité. À Melbourne, des manifestants appellent à la fermeture immédiate des camps de détention des migrants à Manus Island et Nauru. La décision de Donald Trump de rencontrer son homologue nord-coréen suscite une vague d'étonnement et des critiques. Et puis en France, réforme judiciaire annoncée avec création de tribunaux correctionnels. C'est tout pour ce journal. On fait une courte pause avant de passer au magazine des sports.